Bien, ben, merci Michel pour ce très beau titre. C'est un très beau titre parce qu'il résume bien l'ambiguïté qui est associée à ce type d'innovation de rupture. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une success story à la française, au niveau mondial, il n'y en a pas tant que ça. C'est un succès qui a fortement contribué à aider Renault à traverser une période qui n'était pas facile, hein, la période de la crise. Mais d'un autre côté, c'est un succès qui déstabilise, comme tu l'as dit, pas mal d'idées reçues, pas mal de théories, hein. Déstabilisation des marchés. Hein. Pourquoi faire moins cher? Est-ce qu'on n'est pas en train de cannibaliser ce qui faisait l'excellence des voitures européennes traditionnelles? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la voie au low cost? Donc voilà, ça interroge, ça fait un peu peur. Déstabilisation aussi des équilibres internationaux. Hein. Le mode d'internationalisation classique des entreprises occidentales, c'est d'imposer aux autres ce qu'on fait pour soi et pour ses voisins. Et là, on a vraiment un modèle complètement différent. Donc, effectivement, faut-il aimer le succès de la Logan ? C'est un bon titre. Je vais un peu changer de registre. Plutôt que de dire s'il faut ou non aimer cette réussite, j'essaierai de caractériser cette rupture et de comprendre comment elle était rendue possible dans une entreprise comme Renault. Il y a visiblement des témoins particulièrement éminents dans la salle qui pourront certainement corriger les erreurs que je ne manquerai pas de commettre. Et donc finalement, j'aborderai là deux points, deux questions qui sont développées dans l'ouvrage écrit effectivement avec Bernard Julien et Yannick Lung. La première question, c'est tout simplement de savoir si la Logan est innovante. J'ai fait déjà des interventions dans des congrès avec des mondes scientifiques, et notamment en Allemagne. Et mes collègues économistes et gestionnaires allemands disaient « absolument pas innovante cette voiture, cette auto voilà. ». Donc première question, est-ce que la Logan est innovante? Et la deuxième question, si la Logan est innovante, et j'essaierai de vous démontrer qu'elle l'est profondément, comment une telle innovation de rupture a été rendu possible dans une entreprise établie, sachant que, quand vous entendez les profs, en particulier anglo-saxons, Christensen, qui a été celui qui a développé la notion de disruption, eh bien, il dit que ce n'est jamais les entreprises établies qui font des disruptions, c'est toujours des outsiders. Et donc, voilà. Là, donc, comment ça a été rendu possible dans une entreprise établie comme nous? Donc, première question, la Logan est-elle innovante? Alors, évidemment, à première vue, pas vraiment. Hein. C'est un objet un peu banal, un peu désuet. Hein. Mais ça procède en fait d'une vision de l'innovation qui est assez naïve. C'est-à-dire que c'est la vision de l'innovation comme une accumulation de technologies, de complexité, de sophistication. Alors que depuis pas mal de temps, les gens qui s'intéressent dans le monde académique et dans l'industrie d'ailleurs aussi à l'innovation ont des définitions un peu différentes de la rupture innovante. La rupture innovante, c'est ce qui déstabilise les systèmes et les métiers de conception. C'est ce qui fait qu'un bureau d'études, un service de marketing, ne prolonge pas la manière qu'il a de travailler, de penser le progrès. Hein. Et avec cette définition, à ce moment-là, on voit que la Logan est profondément une rupture sur plusieurs plans. Où se situent ces ruptures? Premier point, c'est d'abord une innovation stratégique. C'est une rupture stratégique. Dans le mode d'internationalisation, je l'ai dit tout au début, c'est-à-dire que le modèle classique d'internationalisation, c'est d'imposer une vision un peu impérialiste, hein. On impose aux contrées lointaines ce qu'on fait pour ses voisins, hein. Donc c'est de l'épicentre vers l'extérieur. Et alors il est clair que la mission que M. Schweitzer avait donnée à la Logan, c'était d'augmenter la portée internationale de Renault, hein, de passer d'une entreprise essentiellement européenne à une entreprise mondiale. Hein, mais plutôt que d'exporter, je dirais, la Clio, etc., il s'agissait de cibler une clientèle qui était les clientèles émergentes des pays émergents, des clientèles en ascension des pays émergents. Donc première rupture, une inversion finalement du regard qu'on porte sur l'internationalisation. Deuxième rupture, le fait de dire on va faire du profit avec une voiture pas chère. Bon. Le modèle un peu dominant aujourd'hui, c'est le premium, c'est on vend, y compris aux émergents d'ailleurs, des voitures très haut de gamme, et on se fait une image de marque, et ensuite on descend cette image de marque, et on descend les innovations qui vont avec, vers le bas de gamme. Et là, deuxième rupture stratégique, c'est le fait de dire, on va attaquer le marché plutôt par le bas, hein, et ensuite, on va peut-être monter si ça marche. Entre parenthèses, c'est ce qu'a fait exactement Henry Ford au début du siècle, en requalifiant l'automobile d'un véhicule de luxe à un outil de mobilité. Donc, premièrement, c'est une innovation stratégique, une rupture stratégique. Deuxième chose, évidemment, c'est aussi une innovation majeure en termes de conception automobile, qui peut se mesurer à l'ampleur des challenges réussis qu'il fallait résoudre pour que ce projet impossible d'une voiture rentable à 5 000 euros passe dans les faits. C'est une chose de dire qu'il faut faire une voiture à 5 000 euros, c'est autre chose que l'exécution suive derrière cette vision stratégique. Alors l'erreur serait évidemment de croire qu'il suffit d'aller dans un pays low cost pour faire pas cher, puisque là, dans les données que je vous donne ici, le véhicule de référence, c'est la Clio Export faite déjà en Turquie. Hein. Donc déjà, il fallait gagner 50% à peu près de prix de revient de fabrication par rapport à une voiture qui déjà n'était pas faite dans un pays cher. De même, on devait faire ce progrès avec ce qu'on appelle un ticket d'entrée, donc un investissement modique, ce qui n'est pas évident en termes de pour introduire des ruptures industrielles. Donc, en fait, là, ça ne se voit pas, mais la Logan est une prouesse d'ingénierie automobile. Hein. Elle procède d'une intelligence technique, certes beaucoup moins spectaculaire que la voiture qui se gare toute seule, mais tout aussi difficile à réussir. Il ne suffit pas de déshabiller une voiture pour faire une Logan. Il faut redéfinir une génétique nouvelle, des compromis, des normes. Il faut mettre en cause, finalement, les normes métiers classiques qui vont très bien pour le marché occidental, mais qui ne permettent pas d'atteindre ces challenges-là. Et des auteurs comme Clark, qui est un grand auteur dans le domaine de la R&D, ont différencié différents types de ruptures. Alors, ils parlent de l'innovation radicale, de l'innovation architecturale, de l'innovation composant. Et je trouve que ça ne qualifie pas très bien le type d'innovation de la Logan. Moi, je trouve que c'est un travail de fourmi. Je prendrais bien le terme d'innovation fractale. Hein. C'est-à-dire que sur la Logan, toutes les pièces, la moindre chose a été travaillée, repensée pour s'inscrire dans des démarches qui avaient été lancées par Yves Dubreuil à l'époque de la Twingo, de design to cost. Le moindre détail est travaillé dans cette optique-là. Hein. Une transgression assez systématique de toutes les normes métiers, de toutes les règles du jeu classique, hein, sur le ciblage des prestations. C'est-à-dire qu'il y a des prestations sur lesquelles on ne transige pas. Hein, typiquement, les suspensions qui sont faites pour rouler sur des routes moins bonnes qu'en Europe, là, on n'a pas tellement économisé. Mais par contre, sur tout ce qui n'est pas les unique selling points, les points importants, eh bien, on met ça au juste nécessaire. Donc, c'est le ciblage des prestations. C'est la simplification du produit. Il y a à peu près 3 fois moins de pièces dans une Logan que dans une voiture équivalente de la même type de gamme. Hein. Il y a des astuces du genre des pièces de gauche et de droite qui sont les mêmes, hein, symétrie. Bon, je n'insiste pas, je pourrais donner d'autres exemples si vous le souhaitez. De même, il y a eu un travail sur la réduction de l'investissement en allant faire son marché auprès des fournisseurs et auprès des produits existants pour trouver des composants pas chers. Au niveau de l'industriel, donc la voiture a été industrialisée dans l'usine de Pitech avec un niveau d'automatisation complètement inhabituel. Il y avait moins de 10 robots quand la voiture a été lancée. Je pense qu'il faut remonter plusieurs décennies en arrière pour voir une usine avec moins de 10 robots dedans. Hein. Voilà. Donc l'idée que je voudrais soutenir, c'est qu'il faut réunir une compétence technique collective très forte pour oser, pour doser, pour finalement réussir ces transgressions des normes établies, des façons de faire. Hein. D'ailleurs, les acteurs du programme initial étaient tous des hommes et des femmes d'expérience. C'était un peu des jeunes ingénieurs sortis d'école, certainement pas. Et cette compétence technique, cette difficulté technique à redéfinir ces compromis nouveaux, je pense que ça explique le fait que 8 ans après, il n'y ait pas eu un concurrent qui est contre-typé, fait Logan comme au bout de 3 ans, il y avait des concurrents directs à la Scénic, par exemple. Bon. 8 ans après, il n'y a toujours pas de concurrents directs sur la Logan. Alors, il faut d'abord se persuader que c'est une bonne stratégie, ça prend un certain temps, mais derrière ça, il faut aussi réussir à réinventer finalement le juste nécessaire, et ça demande de la compétence technique très forte. La dernière rupture, c'est dans le mode de commercialisation. L'épopée Logan, ce n'est pas juste une usine et un produit, c'est aussi la construction de réseaux commerciaux dans des pays où Renault n'était pas ou peu. C'est aussi pour Renault l'expérience d'une deuxième marque avec, disons, les jeux nouveaux que ça implique. Et enfin, une stratégie commerciale profondément nouvelle où on n'est pas dans pousser des produits avec des rabais, mais on se met dans un océan bleu d'un prix nettement inférieur, ce qui va permettre d'écraser complètement les frais commerciaux. Donc, Logan est une rupture radicale. Hein. Donc, comme dit Christensen, c'est une disruption. Et, a priori, on s'attendait plutôt à ce que ce soit des entreprises comme Tata ou un Chinois qui fassent ce genre de choses, et pas Renault. Et donc, comment, finalement, au sein de Renault, quels sont les facteurs qui ont fait que ça s'est bien passé? J'insisterai ici sur 4 facteurs. Qui sont apparus à moi et à mes co-auteurs comme clés. Le rôle de la direction générale, les structures projet-programme, ce que j'appelle le management de lignée, et puis le pilotage des trajectoires d'innovation sur le monde. Alors, à tout seigneur, tout honneur, premier rôle clé, le rôle clé du dirigeant, M. Louis Schweitzer, pour impulser, donner sa chance, soutenir l'improbable, avancer malgré l'incrédulité. Hein. Alors ça, c'est un résultat tout à fait classique, le fait qu'une innovation de rupture, si elle n'est pas soutenue par le top, je dirais, elle a peu de chances de progresser dans une entreprise. Hein. Vous verrez dans le livre, notamment dans votre interview, des moments où effectivement, on sent très bien que si vous ne le poussez pas, le projet s'arrêterait. J'ajouterais... par rapport à ce facteur importance du leadership au sommet, quelque chose qui est peut-être un peu plus original, qui est de savoir utiliser la marginalité comme un atout. La Roumanie, c'est un premier marché assez marginal, qui n'intéresse pas trop de monde. Hein. Beaucoup d'acteurs du projet initial n'étaient pas des stars de Renault. Hein. Comme nous l'a dit un des membres de l'équipe originelle, quand il disait qu'il travaillait sur le projet X90, qui était le nom de code de la Logan, la réaction de ses interlocuteurs était souvent « Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver là ?» Donc, effectivement, c'était un projet marginal, mais cette marginalité a permis des ruptures et des transgressions qui auraient probablement été beaucoup plus difficiles si on était au cœur de l'appareil, au sens noble du terme, Renault. Deuxième facteur important, la compétence et l'empowerment des structures projet-programme. Là, je crois que Renault a touché les dividendes de transformation du début des années 90. C'est sûr qu'il faut une direction générale pour impulser, donner une vision, voiture 5000 euros, mais derrière, évidemment, la vision, ce n'est pas l'exécution. Il faut transformer cette vision en une déclinaison fonctionnelle, technique, industrielle, commerciale, fine. Et pour ça, c'est les directions de projet autonomes qui l'ont permis. Hein. Et s'il n'y avait pas eu ça, les fameuses transgressions des règles métiers établies, elles n'auraient pas pu se faire. Troisième facteur, peut-être plus nouveau pour Renault, c'est ce que j'appelle la maîtrise d'un management de lignée. La réussite économique du programme Entry, Logan plus ses descendantes, ne vient pas uniquement du premier coup, hein, mais il vient de l'expansion du projet, de sa capacité à se déployer au-delà de la visée initiale en termes de produits, de marché, de système industriel. En effet, un projet réussi, il se heurte souvent à 2 écueils. Le premier écueil, c'est de s'accrocher au premier succès, de faire durer la poule aux œufs d'or, de chercher à reproduire exactement la recette qui a permis de réussir. Et donc, il y a souvent des entreprises qui sont prisonnières de leur succès, n'arrivent pas à le dépasser. L'autre écueil, c'est le retour à la normalisation. C'est-à-dire une fois qu'on a fait le premier coup très, très bizarre, un peu exotique, mais quand on devient non marginal, bah allez, Maintenant, on revient dans le cœur du métier, le cœur des process, etc. Dans le monde automobile, c'est un petit peu ce qu'on a reproché à Skoda, qui au départ était original, et puis un peu s'est ramené au Volkswagen as usual. Donc, à l'inverse de ça, la réussite commerciale et économique d'Entry, elle est associée à la capacité du programme à piloter une expansion qui impliquait des bifurcations, qui impliquait des métamorphoses, tout en gardant derrière une identité forte, une espèce d'esprit Logan. Voilà. Alors, il y a eu trois types d'expansion. Le premier type d'expansion, c'est l'équipe projet. Le premier type d'expansion, c'est les produits. À partir d'un point initial où c'était une voiture tricor qui est celle-là, eh bien, introduction d'une variété avec un break, la Sandero, un dérivé de la Sandero, la Duster et la Logique, qui n'est pas sur la photo. Le point intéressant, c'est que l'efficacité de cette montée en valeur sur la lignée Entry, elle tient beaucoup au fait que cette montée en valeur s'est faite d'une manière, je dirais, où la valeur qu'on mettait dans la voiture, elle se voyait pour le client. C'est-à-dire que si on rajoute un look 4x4 pour la Duster, on le voit. Si la Sandero, il y a un effort de style, etc. Bon, c'est-à-dire qu'en partant du bas, eh bien, à chaque fois que l'ingénierie et le marketing se mettent d'accord pour dire « là, on va cibler là-dessus », eh bien, il y a de la valeur qui est mise dans le produit et que là. Et donc, c'est beaucoup plus clair comme proposition, comme promesse pour les clients. Deuxième chose, l'un des risques d'une diversification, c'est évidemment de complexifier ce qui était au début l'un des principes de réussite, c'est-à-dire la simplicité du programme. Bon. D'où des démarches comme le Carry Across, qui est de maintenir sur toute la gamme une standardisation, une commonalité de pièces au maximum. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on modifie une pièce sur une voiture plus récente, eh bien, on la rétrofite sur l'ensemble de la gamme, ce qui permet de garder à peu près 70% des pièces communes entre une Sandero et une Duster. Je veux dire, ça ne se voit pas beaucoup. Là aussi, on a de l'intelligence de conception où il faut de la compétence technique derrière pour réussir. Le dernier point, c'est justement de revenir sur des dogmes qui ont permis de faire le premier coup, comme par exemple un produit unique, donc on a une seule planche de bord, on a un seul bouclier, etc., ce qui était une très bonne idée au premier coup, mais qui ne résiste pas à la variété. Bon. Et donc à ce moment-là, on reconçoit ces pièces de manière à faire ce qu'on pourrait appeler un « design to variety », c'est-à-dire que la variété ne soit pas inflationniste. Deuxième type d'expansion, c'est l'expansion géographique, l'expansion des marchés. Logan a été ciblée au départ sur les PECO. Elle a très bien marché en Roumanie. Elle n'a pas bien marché en Pologne, en Tchéquie, pour des raisons, je dirais, un peu de macroéconomie de l'Europe. Hein. Et donc, l'expansion s'est faite d'une manière tout à fait... il y a eu des bifurcations. Elle est revenue en Europe alors qu'elle n'était pas prévue au niveau européen. Au Brésil, on ne voulait pas du tricor, donc il y a eu la Sandero qui ensuite s'est développée aussi sur le marché européen. Donc il y a eu un déploiement commercial qui a été, je dirais, assez très réactif, avec plein de surprises. Mais à chaque fois, on a rebondi. Voilà. Donc des bifurcations qui ont été acceptées, qui ont été acceptées aussi dans la politique commerciale. Au début, on voulait surtout ne jamais mélanger la marque Renault et la marque Dacia pour ne pas affaiblir l'image de marque de Renault. Mais par exemple, les Russes ont dit, pour moi, Dacia, c'est la vieille Roumanie, un pays satellite. Jamais, jamais de Dacia chez moi. Donc là, il y a eu la Logan qui a été badgée Renault. Donc pareil, un mélange de pragmatisme, de réactivité très forte qui a permis de rebondir et d'aboutir à cette expansion extraordinaire dans des pays très, très différents. Dernier point, une expansion aussi industrielle. On est passé d'une Logan monosite, une voiture pour une usine et un parc fournisseur, à un système industriel complètement éclaté dans plusieurs continents et plusieurs pays, avec, là encore, la nécessité de repenser le produit pour que cette explosion logistique ne se traduise pas par une explosion de coûts. Donc, en particulier, il y a eu des changements dans une espèce de design to logistics, de repenser la voiture de manière à ce que la logistique soit pas inflationniste. Donc, sur toutes ces expansions, une intelligence du pilotage et donc d'exécution de ces bifurcations, de ces métamorphoses, qui a associé opportunisme, capacité de révision des recettes qui avaient fait la réussite du premier coup, avec derrière des principes directeurs d'un ordre supérieur. Là, je ferai la référence à un vieil ami, hélas disparu, Christian Navarre, qui avait théorisé des méta-règles. Voilà les méta-règles de l'esprit Logan, qui, derrière les transformations, les bifurcations, ont guidé la manière de piloter cette expansion tout à fait extraordinaire. Et au total, alors on peut dire, OK, mais and so what, est-ce qu'ils ont réussi à maintenir les choses? Bon, l'étude, et là je remercie Renaud de cette collaboration, puisqu'ils nous ont vraiment ouvert tous les dossiers pour cette étude-là. Voilà là, une courbe qui, à mon avis, est tout à fait parlante sur la maîtrise des coûts d'une Logan type. Donc là, on prend une voiture qui est à peu près qui a la même définition de 2004 à 2010, et on voit trois courbes. Je commenterai la courbe verte, c'est la courbe, je dirais, de travail, de productivité, d'études industrielles, etc., de l'entreprise, qui, cherche à rattraper les facteurs inflationnistes du genre coût des matières premières, augmentation de la valeur de transformation, augmentation des salaires, etc. La courbe bleue est une courbe aussi intéressante. C'est une courbe que subit le programme. C'est une courbe qui est attribuable à Bruxelles. C'est la courbe des normes de mise en conformité de la voiture. Et là, on voit très bien que la normalisation automobile, elle est typiquement d'une logique sustaining. On rajoute des choses, on sophistique, etc. Donc c'est vrai que faire du disruptif low cost en Europe, on a un ennemi, c'est Bruxelles, parce qu'on vous rajoute de l'ESP, on vous rajoute du multiplexage en voilure, etc. On est toujours dans une logique du toujours plus. Et même si ça peut empêcher les gens, par exemple, certaines gens qui pourraient acheter des voitures neuves, mais qui gardent des vieilles voitures d'occasion, plus dangereuses, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des voitures sophistiquées. Voilà, dernier facteur que je voulais ajouter, c'est le fait d'avoir une capacité à jouer sur des trajectoires d'innovation mondiale. Bon, a posteriori, Duster et Sandero se vendent bien en France, hein, mais si dès le départ on avait voulu les pensées pour la France, elles auraient été évidemment tuées dans l'œuf. Donc là, c'est très très clair qu'il y a eu un coup en plusieurs bandes, si je puis dire. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. L'importance de l'internationalisation, on parle toujours de l'internationalisation, soit pour avoir les gros marchés, soit pour le low cost. Mais je pense qu'il est temps de penser l'internationalisation comme une ressource d'innovation, hein, de manière à essayer des choses un peu en rupture, ne pas prendre trop de risques, profiter des marchés sur lesquels ces risques sont moins importants parce que c'est plus favorable, etc. On pourrait faire le parallèle avec le projet Prius. Le projet Prius, son premier marché au Japon, a été une catastrophe. La réussite du projet Prius a commencé en Californie et ensuite elle est revenue au Japon. Bon, la première opportunité du véhicule électrique, c'était Israël. Bon. Donc je dirais jouer sur le monde comme un terrain de jeu qui permet de progresser pas à pas vers des innovations de rupture. Mais pour faire ça, il faut développer dans l'entreprise une compétence que j'appelle business to society. C'est-à-dire que l'automobile, on tend à le penser uniquement comme business to consumer, hein, on a les clients, hein, mais pour s'imposer en Roumanie, pour s'imposer au Maroc, pour s'imposer en Russie, etc., il faut évidemment, compte tenu, alors c'est peut-être spécifique à l'automobile parce que c'est une industrie qui a tellement de poids économique, il faut penser beaucoup plus large que le seul client. Il faut penser opération industrielle, il faut penser institution, il faut penser régulation Bruxelles, etc. Hein. Et donc ça, c'est aussi, je crois, une compétence qui a été nécessaire et qui a eu, hein, à l'intérieur de Renault pour réussir ce type de projet. Alors, en conclusion, je conclurai sur un enseignement que cette recherche m'évoque sur les processus d'innovation des entreprises et qui renvoie à un autre bouquin que j'ai écrit cet été avec Rémi Magnac et Romain Baume, mais disons qui s'intéresse à comparer les différents modèles d'innovation des entreprises. L'innovation centrée sur le concept produit, c'est quelque chose de très ancien dans l'automobile. Bon. Mais dans les années 90, on a un peu oublié ce modèle-là pour un modèle de découplage entre le développement automobile sur des plateformes très, très stabilisées, etc., et l'innovation, elle était repoussée en amont dans des technologies, dans des prestations qu'on prépare, et puis quand elles sont prêtes, on les embarque dans des voitures. C'était comme ça, dans les années 90, que le modèle d'innovation dominant s'est développé. Alors, ça a évidemment des vertus. Ça permet de rationaliser le développement. C'est plus court, c'est moins risqué. Hein, le risque, il est repoussé en amont. Et puis, c'est les innovations qui apportent des gènes nouveaux aux véhicules. Eh bien, un projet comme le projet Logan Entry ou comme le projet Prius, c'est pareil, ça montre qu'il y a une autre façon d'innover dans l'automobile qu'il faut surtout pas oublier, c'est l'innovation de concept. C'est de prendre le concept de produit de rupture comme la matrice des innovations. Hein, et donc, ça va pas être, on va pas mettre pousser les prestations, pousser les technologies comme l'ESP, comme le parking automatique dans des plateformes existantes. Non, on va partir d'une identité de concept véhicule et à l'intérieur de ce concept, eh bien, ça va générer tout un tas d'idées d'innovation. Hein. Et je dirais, c'est des... alors, la Logan, hein, la voiture donc, a généré tout un tas d'idées pour faire des économies. La Prius, qui était au départ le cahier des charges de la Prius, la vision initiale de la Prius, c'était la voiture du 21e siècle, qui a généré tout un tas d'innovations. Et évidemment, d'abord, l'hybride, qui a ensuite percolé dans d'autres niveaux de gamme. Donc, le concept comme berceau des innovations, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Aussi parce que quand c'est incarné dans une voiture, dans un produit, eh bien, les innovations ont un nom. Les innovations se voient du client. On ne sait pas, je veux dire, l'hybride, Toyota est connu pour l'hybride, Honda a lancé l'hybride, la technologie hybride, en même temps, voire avant. Mais personne ne le sait, parce qu'il l'a lancé comme une technologie sous le capot d'une Civic. Donc, ce n'était pas vu, hein, comme ce n'est pas identifié comme quelque chose, voilà. Alors que la Prius, ça a incarné pour le client une valeur, etc. Voilà. Donc, je pense que l'un des débats actuels, au-delà de la mondialisation, au-delà peut-être des problèmes de Monsieur Arnaud de Montebourg, c'est aussi de savoir dans les entreprises comment doser les processus d'innovation entre ces deux modèles très différents qui sont le modèle de on met des prestations innovantes dans des plateformes classiques ou on prend un concept de véhicule nouveau et c'est ça qui génère des innovations. Merci.